Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
Parole de femme.
L'Institut Tombouctou, qui œuvre pour une résolution pacifique des crises sécuritaires, a organisé à Bamako mi-avril une conférence sur le rôle des femmes pour un retour de la paix au Mali et de la sécurité dans la zone du Sahel. Un reportage de notre correspondant Mohamed Danioko dans la capitale malienne.
Dans le but de promouvoir les solutions endogènes à la résolution des crises sécuritaires sur le continent, et plus particulièrement au Sahel, Timbuktu Institute a réuni plusieurs femmes leaders à Bamako autour de la question de la paix. Dr Bakary Samb, responsable Timbuktu Institute.
Je pense qu'il est fondamental au regard de son importance sur l'impulsion d'une dynamique nouvelle, parce que véritablement les hommes ont beaucoup œuvré. Il faut maintenant que les femmes aussi apportent leur contribution. La deuxième chose, ce n'est pas non plus une nouveauté que les femmes s'engagent au Mali. On l'a vu au plus grave de la crise, ces femmes de Gundam, ces femmes de Tombouctou pendant ces évasions dans les années 2011-2012. Et aujourd'hui, je crois que naturellement les femmes doivent affirmer ce leadership-là sur une question aussi cruciale que la paix et la sécurité dans un pays qui est le Mali, qui a besoin aujourd'hui de l'apport de tout le monde dans le cadre d'un dialogue inclusif.
Depuis le début de la crise, les initiatives, surtout de la société civile malienne, se sont multipliées pour une grande implication des femmes dans le processus devant mener au retour de la paix. Les femmes, qui sont majoritaires au sein de la population, sont les premières victimes des crises sécuritaires. Au Mali, ces dernières années, les femmes ont pu se battre pour obtenir la loi 052 qui consacre 30% des postes de responsabilité nominatifs et électifs aux femmes, même si jusque-là, l'application n'est pas effective. Adam Diko, directrice exécutive à JICAD.
Alors, la place que les femmes doivent jouer aujourd'hui, c'est une place d'actrice dans tout ce qui est la recherche de solutions par rapport à la crise qui traverse le pays. Le rôle des femmes doit être un rôle primordial. Ce rôle doit être un rôle d'actrice, mais aussi un rôle de consciencieuse, de celles-là qui viennent pour conscientiser les autres par rapport à la dangerosité de l'extrémisme violent. Parce qu'on l'a vu, vous l'avez écouté pendant la conférence, que les femmes non seulement sont souvent des facteurs positif par rapport à la résolution des conflits, mais peuvent être aussi des catalyseurs par rapport à ces conflits. Donc aujourd'hui, il est important d'impliquer les femmes dans tout le processus, depuis la recherche de solutions jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions et même l'évaluation de ces mécanismes pour voir si ça répond au contexte local.
Une vingtaine de femmes ont rejoint le comité de suivi de l'accord de paix issu du processus d'Alger qui regroupe le gouvernement malien, les groupes armés signataires et les partenaires du Mali. C'est, dit-on, le résultat d'un combat pacifique mais acharné des regroupements des femmes du Nord et du Sud. Nana Ousmane Touré, actrice de la société civile.
Nous voyons surtout des activités de renforcement des capacités organisées par les femmes, des activités d'information, de sensibilisation, des actions du média, également des activités de visite d'échange et même des études réalisées par des femmes pour apporter la connaissance sur le processus de paix, sur l'accord pour la paix et la réconciliation, ses mécanismes, et aussi les femmes mènent depuis le tout début des activités de plaidoyer pour l'implication des femmes, pour la prise en compte des femmes dans les différents mécanismes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et aujourd'hui, on ne dirait pas qu'on a gagné un combat, mais un avancé important a été réalisé pour la nomination des 9 femmes dans le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Pour évoquer le frein à l'épanouissement du leadership féminin, certaines panélistes pointent du doigt la religion dont la mauvaise interprétation confine souvent les femmes à être des êtres de seconde zone. Comme solution, le docteur Bakary Samb invite à s'inspirer du modèle marocain.
On pourrait prendre l'exemple du Maroc, où à partir de 2004, avec la Moudawana Ahwal Sharsiya, il y a eu un véritable débat où les ulémas, la société civile, les leaders féminins se sont mis d'accord pour faire évoluer les textes, évoluer en tout cas l'interprétation, pour que véritablement l'islam ne soit pas tout le temps considéré comme un facteur bloquant des droits des femmes, mais que je crois que ça dépend de l'interprétation et de la lecture. Et aujourd'hui, avec le centre de formation des imams et des moshidates, ça montre que la femme a son rôle à jouer, notamment dans la société, mais aussi dans l'évolution de ces sociétés-là sur les questions de paix.
Après ce bureau de Dakar et de Niamey, Timbuktu Institute s'est installé à Bamako au mois de mars dernier. Et selon ses responsables, cette question de l'implication des femmes pour le retour de la paix restera une de ses priorités dans les mois à venir. Mohamed Danyoukou, Bamako, pour VOA Afrique.
En Tunisie, la loi numéro 58 de 2017 vise à défendre les femmes contre la violence domestique, mais ce texte rencontre des difficultés dans sa mise en application selon les organisations des droits humains. Les cas de violence conjugale ont fortement augmenté avec les restrictions sociales dues à la pandémie de Covid-19. Blanche Sanou nous en dit plus.
Lorsque Nadia a parlé à la police de la violence de son mari, elle a failli perdre la garde de sa fille. Son cas, selon les défenseurs des droits des femmes, illustre un gouffre entre une loi adoptée sur le genre en 2017 et son application. La célèbre loi a considérablement élargi la portée de la violence punissable à l'égard des femmes et offre en théorie un large soutien aux victimes, faisant du pays un pionnier parmi ses pairs régionaux. Mais obtenir justice reste une bataille sans aucune garantie de succès en raison d'une volonté politique en déclin et d'un financement insuffisant.
J'ai appelé le numéro 1899 pour les victimes de violences contre les femmes en Tunisie. Je leur ai parlé de ma fille. On m'a dit que nous allions prendre un rendez-vous. Je suis allée au poste de police. Le premier jour, ils ont recueilli mon témoignage et ils ont écouté. Ils ont fait leur travail conformément à la loi. Le deuxième jour, ils ont convoqué mon mari. Le troisième jour, je suis allée là-bas pour une confrontation et tout avait changé. Même la personne qui avait pris ma déclaration la première fois n'avait pas la même attitude.
Nadia dit qu'elle a été complètement déboussolée par ce qui s'est passé par la suite. Son mari a pu se payer un avocat alors qu'elle était démunie. La police lui a demandé de constituer elle-même un dossier de preuve. Après plusieurs semaines sans progrès, désespérée et terrifiée de perdre la garde de sa fille, Nadia s'est tournée vers un groupe de femmes pour obtenir de l'aide.
La loi était très ambitieuse. Au niveau de la pratique, on manque de volonté politique réelle pour appliquer cette loi. Au moment de l'adoption du budget de l'État, il n'y a aucun mot qui est prononcé ni par les parlementaires ni par le gouvernement qui prépare le budget de l'État pour dire voilà les lignes budgétaires qui sont consacrées à la loi numéro 58. Or, cette loi, elle vient mettre des engagements sérieux sur les autorités publiques, notamment en matière de prise en charge des femmes victimes de violences.
L'association des femmes démocrates qui fournit un refuge et de l'aide juridique a mis Nadia en relation avec un avocat qui a conclu que le poste de police n'avait même pas envoyé les preuves au tribunal. Le dossier a ensuite été transmis à un second magistrat et quelques jours plus tard, son mari a finalement été arrêté. Pour rappel, la loi de 2017 a été rédigée en consultation avec des militantes et des associations de femmes. En théorie, elle couvre la prévention, la répression et la protection contre la violence, ainsi que l'indemnisation. Une éducation spécifique sur la violence est désormais dispensée dans les écoles de police, tandis que les agents qui tentent de dissuader les femmes de porter plainte sont passibles de peine de prison. Malgré tout, les militants disent qu'ils sont toujours confrontés à une tâche difficile sur le terrain.
Si je le pouvais.
Au Cameroun, la campagne de sensibilisation « We ring the bell », comprenez, nous tirons la sonnette, vise à ne laisser aucun enfant handicapé en marge de l'éducation. L'objectif est de mobiliser tous les acteurs du milieu éducatif pour la promotion de l'éducation inclusive. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Une enquête de l'Institut national des statistiques estime la population des personnes handicapées au Cameroun à 5,4%, soit 2 910 000 personnes handicapées, d'après les résultats du troisième recensement général de la population de l'habitat publié en 2010.
Tous les enfants handicapés ou non doivent apprendre dans les mêmes écoles. Sur ce...
La ministre des Affaires sociales a joint sa voix à la campagne de mobilisation visant à améliorer l'accès des enfants handicapés à l'éducation inclusive au Cameroun. Pauline Irène Guéné.
Le ministère des Affaires sociales s'assure de l'octroi chaque année des subventions aux institutions ou aux œuvres sociales privées et associations d'encadrement éducatif des personnes socialement vulnérables, l'octroi des aides financières et matérielles aux élèves et étudiants handicapés, du fonctionnement de 68 écoles inclusives sur l'étendue du territoire.
Des acquis qui sont cependant confrontés à la dure réalité sur le terrain. Suzanne Gompom-Guidiol est agente de développement inclusif à base communautaire. Elle travaille pour une association de promotion des personnes handicapées dans le 4e arrondissement à Yaoundé.
Les parents ne sont pas parfois réceptifs, c'est vrai, mais à un moment donné, du fait qu'ils voient à peu près comment les autres enfants, parce qu'on les invite au sein de Pro Handicap, effectivement, pour qu'ils essaient de voir dans quel environnement les autres enfants sont acceptés, recueillis et vivent toute la journée avant de rentrer à la maison. Lorsque le parent arrive, il est très émerveillé.
Pour encourager l'éducation des enfants à mobilité réduite, par exemple, l'Association pour la promotion des handicapés du Cameroun, Prom Handicam, fabrique des prothèses dans son atelier à Yaoundé. Luc Amougou est l'un des techniciens du dit atelier.
Ça, c'est les orthèses. Voilà les prothèses pour les amputés. Celui-ci a ses membres. Celui-là, on a enlevé une partie de son membre, de ses membres. Les parents font la demande en fonction de l'handicap et puis on confectionne.
Émérite Kouofossier est père de jumelles de 9 ans. Cet enseignant dit qu'il éprouve des difficultés à garantir une bonne éducation à ses enfants.
Mes enfants sont sourds-muets. Je me suis rendu compte qu'il y avait un centre plus spécialisé. Ici, derrière l'hôpital central, je les ai amenés là-bas. Ça coûte 200 000 par enfant. Je suis fatigué financièrement.
L'éducation inclusive au Cameroun passe aussi par l'intégration des modules de formation sur cette catégorie d'enfants. Coco Bertin, promoteur du CERJAC. Cette des jeunes aveugles de réhabilité du Cameroun.
L'école normale envoie déjà ses élèves ici pour s'imprégner de l'éducation inclusive. Voilà. Et nous, certains de mes collaborateurs et moi, on ira donner des cours dans cette école-là.
La campagne globale « We Ring the Bell » est une initiative de Lilian Fonds, un organisme de soutien aux enfants handicapés. 102 pays y ont adhéré jusqu'ici. Le Cameroun a rejoint cette campagne depuis 2006 en collaboration avec la Cameroun Baptist Convention Health Service. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En Guinée, une brigade spéciale est chargée de prévenir les violences contre les personnes vulnérables, dont les enfants. Cette unité intervient dans les nombreux cas de petites filles qui vivent dans des familles d'accueil et sont souvent forcées à faire des travaux domestiques. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La brigade a été créée l'année dernière, mais c'est le 5 mars dernier qu'elle a officiellement commencé ses activités. Le commandant de la brigade et ses hommes n'ont pas attendu longtemps avant de recevoir la première alerte. Pour l'adjudant-chef Bernard Tonguino, il s'agit bien des cas de traite des enfants.
On a envoyé nos éléments sur le terrain qui ont constaté les faits. Alors, quand ils sont arrivés, leur tante qui est partie les prendre au village, qui a fait croire aux parents que c'était pour venir donner une vie décente aux enfants, c'est un cauchemar qu'elle a fait vivre aux enfants. C'était de les placer dans les familles et moyennant quelque chose qu'elle, elle bénéficiait.
Âgés de 13 et 15 ans, chacune était payée à 250 000 francs guinéens, soit 20 dollars. L'argent que percevait l'intermédiaire, finalement poursuivi pour fait de traite des mineurs. Cette autre fille de 13 ans a connu pire.
Avant, j'étais chez ma grande sœur à Conakry. Elle appelait ma maman pour lui dire qu'une de ses connaissances a besoin d'une fille pour l'aider à faire ses travaux ménagers. On a conclu qu'elle me paye à la fin du mois. Donc, je suis allée chez elle à l'abbé. Elle me payait 50 000. Elle me frappait, m'insultait et quelquefois même me privait de nourriture. J'aurais souhaité vivre avec mes parents, avec des moyens. Pour aller à l'école, je suis revenue à Conakry dans une autre famille d'accueil. Où je vis bien avec toutes les bonnes conditions.
une petite fille venue du village, on en trouve dans de nombreux foyers à Conakry. Mais toutes n'ont pas la chance d'avoir une vie normale. Asma Ouba, présidente du réseau africain des travailleurs domestiques.
Nous recevons des cas de temps en temps, et des enfants qui sont exploités, qui subissent des traites dans les ménages. On les envoie de l'intérieur du pays. Et ils travaillent comme domestiques. Ils ne connaissent même pas combien on leur paye. C'est traité directement entre les parents et l'employeur. Ce que nous trouvons anormal, et c'est des enfants qui n'ont pas atteint l'âge pour travailler.
La majorité de ces filles ne va pas à l'école, occupées à faire des corvées de ménage. Certaines sont même victimes de sévices.
Et le cas d'une bonne qui a été accusée par sa patronne de vol, et cette dernière s'est permise d'appeler un de ses voisins, et ce dernier est venu la séquestrer, attacher, bastonner et brancher un fer à repasser, l'a électrocuté sur son pied droit 6 fois. Et ça, c'est très criminel.
Selon le commandant de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, en 1955 procédures ont été traitées, dont 64 cas de viol et agressions sexuelles sur mineurs. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Contribuer à l'épanouissement des filles à travers la pratique du football, tel est l'objectif visé par le projet sous-régional Les Championnes en cours au Togo, en Guinée et au Bénin. Notre correspondante Kaïd Osson s'est rendue à Dapaong dans l'extrême nord du Togo où le projet lancé le 20 avril rencontre un grand succès.
Baptisé au Togo Champion Sipam Yudan, le projet est exécuté dans la région des savanes la plus pauvre du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Le projet vise à rétablir l'égalité de droits entre filles et garçons qui est un peu limitée dans la région. Souleymane Sebabi, chef projet Champion Sipam Yudan.
Le projet Champion, en langue locale Moba, Sipam Yudan, qui signifie la leader, la pionnière, promeut le leadership féminin. Les bénéficiaires directs de ce projet, il y a d'abord 1440 filles, en plus de 480 garçons qui sont identifiés comme les champions du changement. Ce sont ces jeunes-là qui vont aider les filles à porter cette thématique au niveau des hommes qui pensent que l'égalité des droits entre femmes et hommes, entre filles et garçons, n'est pas possible.
Pour permettre aux filles de jouir pleinement de leurs droits, les partenaires du projet ont choisi le football comme courroie de transmission. Awa Faliba, représentante résidente de plan international au Togo.
Ce projet permet d'adresser les questions d'égalité pour les filles à travers l'entrée par le sport et particulièrement le football. À travers la popularité du sport, pouvoir adresser des questions de fond par rapport aux stéréotypes de genre qui empêchent les filles de s'épanouir, d'aller à l'école, d'avoir des activités génératrices de revenus, de pouvoir décider de leur vie.
Le parrain de ce projet est l'ancien gardien des éperviers Kodjovio Bilalé, blessé lors de l'attaque armée de l'équipe togolaise sur une route du Cabinda en 2010. Le footballeur reconverti en agro-businessman promet d'accompagner ses filles pour qu'elles deviennent des femmes accomplies.
Je les ai vues jouer et je n'ai pas vu aucune femme simuler ou tomber ou pleurer pour des blessures. Je peux les booster via mon expérience personnelle, donc les encourager pour affronter tous ces jugements d'intention. Pour ce qui concerne le projet, c'est de ne pas sortir spécialement footballeuse professionnelle, mais devenir une femme plus tard.
Yen Joutre Lamboni, élève en classe de terminale, joue dans l'équipe féminine Djabir FC de Tanjouari.
J'aime le football et je vois les filles jouer, ça me plaît aussi, je veux jouer aussi. Pour pouvoir faire les entraînements, j'ai fait un emploi de temps, j'ai une heure pour apprendre, une heure pour aller au terrain. Mes ambitions dans le foot est que d'un jour à l'autre, je deviens un professionnel. Ce projet va nous aider à nous améliorer dans le football.
Ce dynamisme porté par ces jeunes joueuses renforce la FTF, Fédération Togolaise de Football, dans sa mission de faire éclore le football féminin dans le pays. Yvette Clousset, responsable du département du football féminin à la FTF.
Nous voudrions faire en sorte que le football féminin puisse encore aller de l'avant. Cela permet d'ôter les clivages que nous connaissons. La fédération prend sur elle de permettre à ces jeunes filles d'évoluer dans la discipline. Et au-delà du football, le sport permet également de s'intégrer dans la société. Il faut pouvoir poursuivre son rêve, il faut l'atteindre, il faut se donner du plaisir. Et c'est ce rêve-là que la FTF voudrait aider ses filles à réaliser.
Le projet Champion Sipam Yudan, qui cible les jeunes de 12 à 24 ans, compte contribuer à faire tomber les barrières de genre et de croyances traditionnelles qui freinent l'épanouissement, le leadership des jeunes filles et l'égalité des sexes. Kay Lawson, de retour de Dapaon pour VOA Afrique.
Les filles se mettent au football également au Kenya, où les enseignants et parents ont cherché un moyen d'améliorer la vie des filles à travers la création de clubs de football féminin. Car les grossesses d'adolescentes sont montées en flèche pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19 à Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique. Je relate ici un reportage de Brenda Moulinia à Nairobi. Au cœur de Kibera, deux équipes de football féminines, les Undugu Queens et les Queen Starlets, s'affrontent en match amical. Elles ont été formées alors que les autorités kenyanes affirment que les grossesses chez les adolescentes ont bondi d'au moins 40% pendant les mesures liées à la pandémie de Covid-19. Le fondateur et entraîneur du Undugu Queens Club, Laban Ouma.
The impact that... This program gives to the girl.
Ce programme protège les filles des maux de la structure sociale dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un environnement fortement affecté par la toxicomanie. Nous avons aussi des grossesses précoces.
Winfriedia Niaboke a rejoint les Undugu Queens fin 2020 après que sa meilleure amie Ruth soit tombée enceinte alors que les écoles étaient fermées en raison de la pandémie.
Elle a refusé de se joindre à nous pour jouer au football. Elle a décidé de jouer avec des garçons. En ce moment, elle est enceinte. J'ai décidé de me tenir occupée avec le football. Je savais que cela m'empêcherait de tomber dans le même piège.
Les Undugu Queens s'entraînent tous les jours de la semaine et organisent des matchs tous les week-ends. Les parents des joueuses affirment que le calendrier exigeant de cette discipline sportive aide à maintenir leurs filles en bonne santé et en sécurité. Rose Ngouli soutient sa fille en ce sens.
Nous sommes très reconnaissants quand elles jouent au football, car ces enfants ne quitteront pas le terrain pour s'exposer à un environnement destructeur.
Le club de football propose également un programme de mentorat pour les travaux scolaires, ainsi qu'un accès à des produits de soins menstruels. Mais certaines joueuses se retrouvent encore enceintes, comme Lavine Ondaki.
J'ai arrêté de jouer au football après être tombée enceinte. Je n'ai pas pu continuer pendant ma grossesse. Maintenant que le bébé est un peu plus âgé, je peux à nouveau jouer.
Le travail acharné de l'équipe semble toutefois porter des fruits dans l'ensemble. Les Undugu Queens devraient rejoindre la Ligue professionnelle de football féminin du comté de Nairobi après la levée de la suspension des compétitions sportives pour cause de pandémie. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.